Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison, l'émission La Grande Tchatch animée par la rédaction du Ravi sur les 3-8 Radio Grenouille. Je vous rappelle que c'est tous les 4e samedi du mois, le Ravi, votre mensuel régional dans tous les kiosques. C'est tous les premiers vendredis du mois. Le Ravi, c'est également un site internet www.leravi.org sur lequel vous pouvez vous abonner en ligne. Marie-Arlette Carlotti, vous êtes abonnée au Ravi ?
Eh oui !
Bien,
j'en
c'est
suis
une bonne
ravie.
Chose. Aujourd'hui donc, pour cette dernière émission animée par Michel Guéraud et Rafi Hamal, nous recevons une femme, élue socialiste, conseillère régionale et générale, Marie-Arlette Carlotti. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Nous recevons aujourd'hui une drôle de dame de la politique. Avec Marie-Arlette Carlotti, comme dans la série télé des années 70 et son remake ciné, c'est à coup sûr action, glamour et humour. Action ! Avec MAC, permettez-moi de vous désigner par cet acronyme pour garder le bon rythme, on entre tout de suite dans l'univers musclé des films américains. Titulaire d'un DESS de droit et de gestion des ressources humaines, votre carrière décolle à Eurocopter entre Super Puma, Tigre et Rotor d'hélicoptère. Cadre dans l'industrie aéronautique, vous êtes aspiré très jeune dans le vortex du militantisme socialiste dont vous n'êtes toujours pas ressorti. Tout juste trentenaire, en 83, vous intégrez déjà le Conseil national du PS. Mais il vous faut patienter jusqu'à vos 44 ans pour décrocher, à la faveur d'une démission, votre premier mandat en 96, députée européenne. Vous prenez très vite goût à la castagne électorale. À votre palmarès figurent 2 réélections au Parlement européen, 4 au Conseil régional des Bouches-du-Rhône. Il figure aussi 2 vestes aux législatives, qui ne vous découragent même pas. Anticipant la fusion des départements et des régions, vous cumulez aujourd'hui les mandats de conseillère générale et régionale. Glamour ! Oui, pas de drôle de dame sans un Charlie. Vous savez, le patron mystérieux et invisible de nos 3 héroïnes, là. Et là, qu'on se le dise, Mac aime jouer au premier plan, mais à contre-courant. En 2007, lorsque la Fée des 13 mise sur Ségolène Royal, vous militez pour une candidature de la Noé. Et en 2011, alors que les mêmes appels à demi-mot, ça va pas tarder à soutenir Martine Aubry, vous ne jurez que par François Hollande. C'est vous qui menez son comité de soutien dans le département et on ne peut même pas vous accuser d'opportunisme car votre choix était déjà fait avant que Strauss-Kahn ne s'amuse au Sofitel. Humour, justement. Les drôles de dames font équipe avec John Bosley, leur supérieur direct, jovial et paternaliste. Votre John s'appelle plutôt Jean-Noël Guérini. Vos rapports ne manquent pas de piquant. Porte-parole de sa campagne au municipal à Marseille, vous ressortez brouillé après la défaite. Représailles. En 2008, votre section est coupée en 2, puis vous n'obtenez pas d'investiture aux dernières élections européennes. En 2011, vous aggravez votre cas, oui, vous exprimez vos doutes sur la pertinence d'une nouvelle candidature Guérini à la présidence du CG dans le climat des affaires politico-judiciaires, et alors qu'une commission interne enquête sur les dysfonctionnements de la Fédé du 13. Cette fois-ci, vous n'avez pas été privé de délégation, mais vos impertinences agacent et dans les Bouches-du-Rhône, quelques socialistes ne vous trouvent pas. Très drôle.
Marie-Arlette Carlotti, un commentaire sur ce portrait.
En tout cas, le portrait.
À la sauce ravie.
Très drôle, lui. Mais on m'appelle Mac, de toute façon.
Ah, très bien.
Rien à voir avec l'ordinateur, donc.
Non.
Marie-Arlette Carlotti, avant de démarrer cette émission, en la démarrant, on a évoqué tout à l'heure, Michel Guéraud l'a évoqué dans son portrait, l'affaire Strauss-Kahn, qui secoue un petit peu les socialistes et même au-delà. Ça lève le voile sur certains dérapages. Alors, l'homo politicus des Bouches-du-Rhône et à Marseille a aussi des pratiques borderline ? Vous êtes une femme, on l'a dit tout à l'heure.
Alors, d'abord, l'affaire Strauss-Kahn, c'est une triste affaire pour les deux parties, mais c'est son affaire. C'est pas l'affaire des socialistes, hein. C'est pas le 21 avril, c'est même pas...
Enfin, ça aurait pu être l'affaire de tous les Français, puisqu'il
si
était favori...
Si, on l'avait désigné, mais comme il a été rappelé tout à l'heure, ça n'était pas mon premier choix. Mon premier choix était bien François Hollande. Il y a du machisme en politique, de là à avoir ce genre d'attitude, n'exagérons rien. Bien sûr qu'il y a du machisme localement, pas plus qu'ailleurs.
Dans les Bouches-du-Rhône, hein. Ou à Marseille,
bon, c'est pas parce que nous sommes des Méditerranéens qui sont plus machistes qu'ailleurs. C'est pareil, c'est un milieu d'hommes, donc ils ont l'habitude d'être entre eux. Donc les blagues qu'ils estiment rigolotes et que nous on estime salaces, ben, y en a. Mmh. Le fait qu'on vous fasse des remarques sur votre tenue vestimentaire alors qu'ils ne sont pas forcément toujours très bien habillés, eux,
Vu la rareté des femmes en politique à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, si l'une d'entre vous subissait, je ne sais pas moi, un massage des pieds à la Georges Tron ou autre chose de pire, elle aurait le courage d'en faire état et d'aller porter plainte?
Alors d'abord, je veux vous dire que les femmes qui persistent en politique, et vous les connaissez, celles qui sont à Marseille, en général, il faut avoir un sacré caractère, sinon on abandonne avant. Donc oui, elles auraient toutes le courage de le faire. Deux, je pense, malgré nos différences, qu'on serait toutes solidaires, parce que ça, c'est quelque chose de terrible. Et trois, franchement, le machisme, il est quand même plus important et plus difficile à traiter dans l'entreprise que dans le monde politique. On est quand même plus apte à se défendre parce qu'on a l'habitude de parler. Dans l'entreprise, quand une femme est disqualifiée parce qu'elle gagne moins comme salaire, parce qu'elle est harcelée, c'est plus compliqué. C'est vraiment quelque chose sur laquelle on doit s'atteler. Et si l'affaire Strauss-Kahn doit révéler quelque chose, c'est surtout là que je veux qu'on apporte des réponses.
Michel. On a vu une députée de Marseille, UMP, Valérie Boyer, organiser une journée de la jupe à l'Assemblée nationale, en fait un peu trop, ou c'était bon, pertinent?
Elle fait comme elle veut, puis en plus c'est très rigolo. Ceci dit, nous c'était l'inverse. Quand on était au lycée, il fallait pas mettre de pantalon, c'était mal vu. Donc vous voyez, on peut contourner les choses. Non, elle a raison si elle veut mettre l'éclairage sur le machisme à l'Assemblée nationale, elle a raison de le faire. Puis ça fait parler d'elle, puis c'est bien de faire parler des femmes en général.
Alors on est à quelques mois d'une échéance électorale importante, les présidentielles. Cependant le climat est... lourd, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors il y a les affaires judiciaires, celles qui sont supposées, celles qui sont avérées. Il y a également une sorte de malaise social avec un mouvement qui a pris son ampleur de l'autre côté de la Méditerranée, ce qu'on a appelé de manière peut-être un petit peu rapide le printemps arabe, qui s'est importé en Espagne avec les indignés et qui menace quand même d'arriver jusqu'à nous. Quel regard vous jetez sur tout ce remous?
D'abord, je jette un regard très sympathique. Je suis très heureuse que les peuples réclament leur dignité,
même
la démocratie.
Même si les citoyens semblent rejeter les politiques.
Mais c'est notre faute s'ils rejettent les politiques. Laissez-moi en finir. Ils rejettent les politiques, mais regardez, c'est le livre de Stéphane Hessel qui a fait le plus grand succès. Donc les citoyens, ils ont envie de s'indigner. Et les Français aussi ont envie de s'indigner. Et si on considère la jeunesse comme on continue à la considérer, c'est-à-dire la prendre pour le paria de la société, ne jamais s'occuper d'elle, alors la jeunesse s'indigne. Et c'est comme ça que je comprends la révolte des Espagnols et même des Portugais. Ils ont pris toute la révolte du Maghreb. Quelle fierté quand même que ces gens-là qu'on disait en voie de développement, en vraie difficulté, nous donnent une telle leçon de dignité. Eh bien, ils ont pris cette révolte-là, les Espagnols, les Portugais, pour en faire quelque chose de plus constructif. Nous, on a quand même un avantage, on peut se révolter sans problème, puisqu'on a la démocratie déjà. Donc, je crois que c'est très important que lors de cette campagne, on s'adresse aux jeunes, qu'on les fasse rêver, qu'on leur dise « indignez-vous, on va faire quelque chose d'autre dans ce pays ». Si notre candidat n'est pas capable de s'adresser à la jeunesse et de la faire bouger pour conclure sur des choses positives, alors on aura raté l'élection.
J'insiste, hein, c'est vrai que la jeunesse espagnole, les indignados, ont vraiment, c'est au cœur de leurs revendications, mis au cœur de ces revendications une critique de la classe politique, en disant on s'organise à côté d'elle parce qu'elle est déficiente.
Justement, à force, faisons en sorte que ça ne soit pas à côté de nous et que ce soit avec nous. Voilà. Essayons de leur montrer une image de nous qui soit digne, ce qui n'est pas toujours le cas. Ici aussi, il y a un discrédit de la classe politique, un énorme discrédit de la classe politique. Sarkozy n'y est pas pour rien d'ailleurs. Hein. Il avait donné tellement de courage, de force à certains. Son volontarisme a montré que peut-être les gens y ont cru. Aujourd'hui, il y a une espèce de désaveu total de la classe politique. Je vous le dis, le pari de la prochaine élection présidentielle, ça sera ça. Ça sera redonner du crédit à ceux qui, comme nous, portons quelque chose au nom des gens. On ne porte pas tout seul. On doit d'abord ressembler aux gens, ne pas vivre sur une autre planète et leur porter de l'espoir. Et quand je dis les gens, pour moi, et d'ailleurs pour François Hollande, puisque vous avez parlé du fait que je le soutenais, c'est la jeunesse, parce que c'est là qu'il faut parier. Et c'est là, c'est avec eux qu'il faut jouer.
C'est effectivement ce que met en avant François Hollande. Il ne joue pas à contre-emploi. Là, François Hollande parlait à la jeunesse.
Pourquoi? Parce qu'il il manque des cheveux et qu'il n'a pas un perfecto?
Non. Il a maigri quand même.
Voilà, donc, maigri, c'est pas mal. Mais plus il a maigri, plus il a pris du poids politique. C'est ce qu'on dit. Donc de toute façon, non, je crois qu'il ne va pas à contre-courant. Il faut bien qu'il porte l'espoir, il faut bien qu'il porte quelque chose. Il n'a pas le look? Vous trouvez que nos présidents précédents ont le look?
Il incarne une gauche très, très raisonnable, très, très gestionnaire.
C'est un peu la social-démocratie.
Très social-démocrate. Est-ce que c'est ça qui va faire rêver la jeunesse? Est-ce qu'il propose une utopie un petit peu mobilisatrice, un petit peu...
certains rêves de radicalité.
Alors, si vous me dites que François Hollande est un socialiste social-démocrate, la réponse est oui, c'est un social-démocrate. C'est un social-démocrate qui veut porter concrètement des aspirations des gens, le mal-être des gens, il veut leur trouver des solutions une fois arrivé au gouvernement.
On a vu la faillite quand même à travers toute l'Europe des gouvernements sociaux-démocrates.
Vous avez raison, mais je pense qu'il peut porter des réformes draconiennes, des réformes... On ne sait pas dans quel état on trouvera le pays. On sait qu'on le trouvera mal, que les caisses sont vides. On espère qu'on ne trouvera pas la situation comme en Grèce, je ne le pense pas. Mais la situation risque d'être plus grave qu'on ne le croit aujourd'hui. Ça veut dire que le prochain président, qui sera de gauche, j'en suis sûre, doit avoir des priorités. Et quand il met comme priorité la jeunesse, s'il met comme priorité l'éducation, puisqu'il veut sanctuariser le budget de l'éducation, s'il met comme priorité la culture, s'il parle davantage d'écologie, il ne le fait pas assez aujourd'hui, s'il parle davantage des questions de société, alors il portera l'espoir. Aujourd'hui, il a toute la crédibilité des gens, ça se voit dans les sondages, il faut maintenant... Et vous avez raison qu'il fasse rêver. Et un social-démocrate peut faire rêver s'il dit simplement aux jeunes « Je parie avec vous. Je vous donnerai toutes vos chances. Je parie pas à 100%, mais ensemble faisons quelque chose. Je vais essayer de vous intégrer dans les entreprises. Je vais essayer de faire que les universités soient plus ouvertes. Je vais essayer que dans vos écoles, ça se passe mieux. Je vais essayer que le festival de musique, ça marche. Je vais essayer que tout ce qui vous intéresse, je vais le porter avec vous et je vous redonnerai la parole. » Moi, j'ai envie qu'il parle comme ça. Et oui, un social-démocrate peut faire rêver, même s'il lui manque un petit peu de cheveux sur le devant de la tête.
Alors, au-delà du rêve, certains, en tout cas les sondages, réclament peut-être un peu plus de concret, notamment en matière de sécurité. Un domaine plutôt nouveau pour les socialistes, qui semble s'emparer en tout cas du sujet. Ça sera une des thématiques de ces prochaines présidentielles et les socialistes ne comptent pas rester en reste ?
Oui, ben vous l'avez vu, il y a eu un énorme débat à Marseille sur la question de sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend des proportions un peu dramatiques, notamment dans les quartiers populaires. Il est impossible de faire en sorte que des gens ne peuvent pas sortir en sécurité dans les rues de la ville.
Alors c'est un problème récurrent à Marseille.
C'est un problème récurrent, mais ça suffit. On nous avait tellement dit, vous allez voir ce que je vais voir, ce qu'on va voir, à la fois l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui président de la République, à la fois le maire de Marseille et les autorités locales, et rien n'est fait. Donc moi, je suis très, très... Je souhaite réellement qu'il y ait la présence de policiers, qu'on recrute les policiers, c'est ce qu'on a dit dans notre projet, qu'on ait également en parallèle une police municipale pour qu'il y ait une présence physique sur le terrain.
Armée.
Je suis pas d'accord. Je crois que ça relève de la police nationale. Il y a chacun doit faire son travail.
En même temps, ils vous diront, il y a certains quartiers, ou en tout cas certaines heures, où les policiers municipaux n'iront pas parce que justement, ils ne sont pas armés.
Absolument, mais ce n'est pas le rôle des policiers municipaux. Chacun son travail. La police nationale doit faire son travail. Elle le fait, mais avec des moyens de plus en plus réduits aujourd'hui. Et la police municipale n'a pas à se substituer à la police nationale. Elle joue un autre rôle, plus citoyen, plus quotidien. Quant aux vidéosurveillances, moi, je suis beaucoup plus limitée, par contre. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention entre la protection des gens et le respect de la vie privée. Je suis à fond pour les vidéos devant les lieux où il y a des populations fragiles, devant les établissements scolaires, sur les transports, etc. Mais il faut faire très attention. Oui, les socialistes, on a cru que les socialistes étaient en constat d'échec sur cette affaire. Ils ne proposaient rien sur la sécurité. On ne disait pas grand-chose. Aujourd'hui, on le dit. On verra ce qu'on est capable de faire.
Michel ?
Est-ce que vous n'accompagnez pas simplement une dérive droitière de la société? Et il y a quelques années de cela, je ne sais pas si les jeunes s'en souviennent, un homme politique de gauche aurait dit la première insécurité, une forme d'insécurité, c'est l'injustice sociale et il faut combattre cette injustice sociale si on veut vraiment combattre l'insécurité.
Mais vous avez
qu'aujourd'hui,
raison de
vous démarrez votre, sur Marseille, vous organisez une réunion publique sur les questions de sécurité. Est-ce que symboliquement démarrer par ça, ce n'est pas se placer sur le terrain de votre adversaire?
Alors d'abord, sur votre radio, c'est la première question qu'on m'a posée. Donc j'ai répondu à la première question que l'on m'a posée. Deuxièmement, c'est une question qui, depuis longtemps, est celle où les socialistes, finalement, passent pour des laxistes, etc. Donc on a eu peut-être besoin d'en faire un peu plus et d'expliquer réellement que quand on était aux commandes dans les villes, dans les régions, dans les départements, on savait répondre à la question de la sécurité des gens et au malaise des gens. Mais troisièmement, vous avez complètement raison. La première des injustices, c'est l'injustice sociale, c'est l'injustice fiscale, c'est l'injustice devant l'accès au logement, devant l'accès à l'emploi, etc. Et ça, c'est vraiment là qu'on devra apporter les réelles réponses également. Je crois que la sécurité sera un thème fort parce qu'aujourd'hui, elle est prenante dans les villes et notamment à Marseille. On ne peut pas constater, on constate tous que dans les quartiers les plus populaires, c'est l'endroit où malheureusement se passent les choses les plus dramatiques. Ça, ce n'est pas tolérable, de laisser une population déjà démunie sur le plan social, en plus d'être démunie sur le plan sécuritaire. Mais bien sûr qu'on aura à répondre d'abord et avant tout sur les questions sociales. C'est là qu'on attend les socialistes.
Michel. Dernière question sur en matière de sécurité. Il y a cette vidéosurveillance que le gouvernement promeut à force... à grand renfort de moyens. Le maire de Marseille veut multiplier les caméras. Les rapports se multiplient partout pour expliquer que ça ne marche pas forcément beaucoup. Les syndicats de police disent que ça ne marche pas beaucoup. Et toute la classe politique, à gauche, à droite, s'engouffre derrière ces dispositifs. Pourquoi ? Est-ce que vous partagez ce mouvement-là ?
Pour quelle raison ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. D'abord, le maire annonce des caméras qu'il ne mettra jamais, puisque... Il en annonce, je ne sais pas combien, on en est à 400 maintenant, ou je ne sais plus combien, enfin, donc c'est très important. Moi, je pense aussi que la présence humaine est plus importante que la vidéo. D'abord parce qu'elle rassure, parce que c'est l'autorité de l'État, parce que c'est le service public qui est là, présent dans les rues. Et je pense que si on doit surveiller les lieux, ce sera les lieux, comme je vous le disais tout à l'heure, où il y a des populations particulièrement fragiles. Oui, devant un établissement scolaire, il faut regarder, parce que s'il y a du racket, on veut pouvoir savoir qui fait le racket, etc. Oui, dans les transports, le soir, peut-être. Ce serait d'ailleurs plus intéressant qu'on ait, comme avant, un conducteur, un receveur. L'humain est quand même la meilleure des réponses.
Mais en même temps, Maria, sur certains lieux, je suis pour les caméras. Hier, à Marseille, une réunion sur la sécurité avec les citoyens a eu lieu. Les gens prônaient de l'humain, bien entendu, mais surtout un suivi après l'arrestation. Beaucoup parlaient de la réforme de l'ordonnance 45, moins de prévention et peut-être plus de répression. Vous êtes sur cette ligne-là également ?
Non, je ne suis pas sur cette ligne-là. Je suis d'abord pour donner... je pense qu'il faut, à chaque fois qu'il y a un acte commis, il faut une sanction.
Abaisser l'âge de la criminalité de la majorité pénale
Je ne suis pas d'accord. Je pense que la jeunesse et l'adolescence doivent être traitées comme des jeunes et des adolescents. Voilà, il faut les sanctionner quand ils commettent des crimes et des délits, surtout des délits d'ailleurs, et les sanctionner, mais les sanctionner de manière adaptée à ce qu'ils sont. Et surtout les prendre en charge avant. Et surtout aider les familles avant. Et aider les familles en difficulté. Aider les familles monoparentales. Et moi, je pense qu'il faut donner à la fois les moyens à tous les travailleurs sociaux de quartier. Nous, ici, au Conseil Général, on travaille beaucoup avec la DAP, qui fait un travail énorme dans les quartiers. Il n'y a plus que sur le terrain. Mmh. Et il faut donner les moyens à la justice de faire son travail. Malheureusement, elle travaille de manière précaire, avec des magistrats sous-payés.
Justement, la justice, la prison est pour vous toujours une solution. Certains la qualifient de criminogène. Au contraire, c'est elle qui forme les délinquants encore plus endurcis. C'est toujours une solution, la prison ?
C'est une des solutions. Dans le panel des peines, c'est une solution. Mais on peut élargir le panel des peines. Lorsqu'il faut extraire quelqu'un de la société parce qu'il est malsain pour la société temporairement, il faut bien le mettre en prison.
Mmh. Par contre, Vous êtes sur la ligne de Ségolène Royal qui préconisait, elle, des centres spécialisés avec encadrement militaire ?
Pour les gosses, pas du tout. Je ne suis pas je ne suis pas pour l'encadrement militaire pour les enfants. Je pense que les militaires ont un autre travail à faire que d'encadrer les gosses. Il y a des travailleurs sociaux pour ça, il y a des pédagogues pour ça, et c'est plus intéressant que mettre des militaires. Maintenant, je suis d'accord pour qu'on leur réinculque qu'est-ce que c'est que les valeurs républicaines, qu'est-ce que c'est que... Vous voyez, même la morale, on parle de retour de la morale à l'école. Alors, premier abord, ça m'a un peu choquée, parce que quand j'étais jeune, la morale, ça me fatiguait un peu le matin, Mais pourquoi pas ? Mais en tout cas, un encadrement militaire chez des adolescents, je ne suis pas d'accord. Et pour les prisons, quand elles doivent avoir lieu, elles doivent avoir lieu. Peut-être faut-il trouver d'autres peines. On n'est pas obligé de mettre tout le monde en prison.
Les stages en bateau ou en cheval,
je parlais des délinquants, des vrais délinquants. Ceux-là, il faut aussi les accueillir en prison, dans des conditions humaines, parce que nos prisons ne sont pas dans des conditions humaines. Et ça, c'est pas acceptable. La privation de liberté, c'est déjà important. Il faut le tenir, mais il faut au moins que ce soit des conditions de vie normales.
Michel.
Est-ce que le social va être au cœur de cette campagne ? En particulier, il y a eu un mouvement quasiment historique avec des millions de gens qui ont défilé dans les rues pour préserver leur droit à la retraite à plusieurs reprises. Ce mouvement n'a pas trouvé de débouché politique. Est-ce que François Hollande, le Parti Socialiste, est en mesure de dire à ces gens, avec nous, il y a une véritable alternative ? Parce qu'on entend au sein du Parti Socialiste, Strauss-Kahn n'était pas très loin de cette ligne-là, des gens dire on ne pourra pas revenir sur la réforme qui a été engagée, on pourra faire autre chose, mais on ne pourra pas revenir, en particulier sur l'âge de la retraite.
Oui, donc en fait, vous avez vu le projet du Parti Socialiste qui a été acté par tous les militants et qui est le socle commun de tous les candidats. C'est qu'on maintiendra la retraite à 60 ans comme possibilité de partir à la retraite, ne serait-ce que pour être juste avec ceux qui ont déjà cotisé, et c'est-à-dire souvent ceux qui ont fait les travaux les plus pénibles, qui ont commencé de façon les plus jeunes, qui sont le moins allés à l'école. Mais on maintiendra le nombre d'annuités plus important tel qu'il est aujourd'hui. Donc on arrivera à trouver un compromis. Ceci dit, vous le savez, la position de François Hollande, c'est de faire qui est d'ailleurs reprise dans le parti, puisque c'est lui qui avait pris cette position, mais il précise les choses aujourd'hui. Il fera une grande conférence avec les organisations syndicales d'entrée. Et on abordera plusieurs questions. Et il fera en sorte, il a proposé dans Le Monde, il y a eu un article dans Le Monde où il dit qu'il faut changer la Constitution pour donner du poids politique plus important aux organisations syndicales. Il y a des choses que les parlementaires peuvent voter, il y a des choses qui peuvent être relevées du compromis et du consensus. Et donc, c'est les organisations syndicales, sous contrôle de la loi parlementaire,
etc. Même si elles ne sont pas extrêmement représentatives, puisque très peu de gens sont syndiqués en
France.
Oui,
mais donnons du grain à moudre aux syndicats, et peut-être que les gens iront adhérer vers les syndicats que nous avons. Voilà, aujourd'hui, on leur prive tout. Sarkozy les traite comme s'ils n'existaient pas, fait semblant de les consulter pour faire l'inverse de ce qui s'est dit autour de la table. Et quant à la gauche, on a toujours cru qu'on allait remplacer les organisations syndicales. On s'accapare le mouvement social. Non. Continuons à leur donner du grain à moudre aux syndicats et vous verrez que les gens iront adhérer aux syndicats.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure un des projets, une grande réunion. Là, on est en pleine social-démocratie. Quelqu'un comme Mélenchon, qui vient d'être désigné comme candidat du Front de Gauche, candidat également des communistes, lui est beaucoup plus radical. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de perdre une partie de cet électorat qui préfère avoir peut-être une utopie plus concrète qu'une grande réunion qui n'aboutira probablement pas à grand-chose?
Je ne suis pas d'accord avec vous sur le concret. Le concret, ce sont les sociaux-démocrates. Le concret, c'est, voilà, on va arriver au pouvoir, si on y arrive, si les électeurs nous donnent cette possibilité. Il faut respecter les citoyens quand même, on ne s'est pas fait. Donc, si on arrive au pouvoir, on fera ça, ça et ça. Ça, c'est du concret. Quand je vous dis qu'on va faire une conférence, on ne va pas faire une conférence comme
enfin,
ça, sur la planète.
Ce qui ressortira de la conférence?
Ah ben, c'est clair, net et précis. On va parler du mal-être au travail, qui est un vrai problème avec le suicide, y compris dans les établissements publics, dans les collectifs.
Et pourquoi ne pas légiférer directement?
Parce qu'on a besoin d'avoir l'avis des organisations syndicales pour ça. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui rencontrent les gens, les salariés qui vont se suicider ou qui ont des problèmes. On va travailler sur l'égalité homme-femme dans les salaires. Ça, c'est quand même important. On va re-aborder la question des retraites, mais avec les cadres, on ne mettra pas en cause la retraite à 60 ans. On va aborder le rôle des organisations syndicales dans l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas maintenant nécessaire d'avancer et de faire en sorte qu'ils soient partie prenante des conseils d'administration des entreprises pour qu'on devienne moderne, comme les grandes social-démocraties du nord de la France. Oui, du nord de l'Europe, où les syndicats sont au cœur du dispositif. Donc voilà, on a listé des thématiques qui ne sont pas comme ça, on n'est pas concret, au contraire. Et quant à Jean-Luc Mélenchon, il fédérera avec lui tous ceux qui sont peut-être plus velléitaires, qui ont envie d'aller plus vite, plus loin. Il va nous booster et j'espère qu'on se retrouvera au second tour.
Vous avez longtemps été députée européenne et c'est cette Europe qui ressemble à un grand marché est souvent pointée du doigt comme responsable de la déréglementation sociale et des problèmes sociaux. Il y a à Marseille, il y a Netcacao qui est menacé de fermeture, il y a Fralib qui l'est aussi. Et on entend dire qu'aujourd'hui, la classe ouvrière se tourne vers le Front National. Est-ce que, avec des réactions très anti-européennes, est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité justement de cette social-démocratie que vous voulez incarner et que François Hollande veut incarner dans ces politiques-là et dans la façon dont elles sont perçues?
Oui, bien sûr. L'Europe est responsable de beaucoup de choses, même si elle n'est pas responsable de tout. La gestion de notre pays, et Sarkozy est quand même le premier responsable dans beaucoup de mal-être des citoyens. Mais l'Europe est responsable, et notamment la social-démocratie européenne. Quand on était majoritaire en Europe, on n'a pas été capable de proposer un projet alternatif européen. On était majoritaire jamais au Parlement européen, on est toujours minoritaire, mais on a été majoritaire au Conseil, puisqu'on avait la majorité des États. On n'a pas été capable de ça. La social-démocratie se cherche au niveau européen. On est très divers les uns les autres. On est rassemblés dans un parti social-démocrate européen, mais on se ressemble peu. On a quelques grands critères, le social comme axe de travail, mais on n'a pas pu proposer une autre Europe. Et aujourd'hui, on voit bien que oui, cette Europe-là, elle ne va pas bien. D'ailleurs, elle est en recul, énorme. C'est d'ailleurs la responsabilité de chaque État. Tout le monde essaie de tirer la couverture à soi. La solidarité européenne n'existe plus, regardez. Elle n'existe pas entre États. Regardez comment on se bouche le nez ou on tergiverse pour aller aider les Grecs. Eh bien, elle n'existe plus entre États. C'est du chacun pour soi. Elle n'existe plus non plus en direction des populations. Et là aussi, ça doit être un sujet que nous devons aborder, y compris, je reviens, avec les organisations syndicales. Parce que là, par contre, j'ai remarqué que de plus en plus, il y avait des grandes mobilisations européennes de syndicalistes. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a une espèce de mouvement social qui existe au moment où l'Europe politique s'écroule.
Est-ce que, Marie-Arlette Carlotti, est-ce que finalement, les peuples, ou en tout cas certains peuples, en l'occurrence celui de France, n'avaient pas plus de nez, de pif que les politiques quand ils ont refusé ce projet de constitution européenne? Il y a eu même un référendum. Ils ont voté non. Vous avez été pour. Et aujourd'hui, on voit les limites de cette Europe.
Non, moi je...
Qui a été finalement imposée.
Oui, je ne veux pas revenir sur ce débat qui a été difficile en France, hein, puisqu'il a coupé la gauche en deux. Ça me pose un problème quand même. Non, je ne veux pas revenir. Moi, je pensais qu'il fallait donner plus de moyens à l'Europe. Le traité constitutionnel, ce n'était pas la panacée, c'était un escalier de plus, enfin une marche de plus dans l'escalier vers plus de pouvoir, notamment au Parlement européen, qui pouvait davantage contrôler la politique européenne, notamment aux parlements nationaux, qui pouvait davantage intervenir en amont. Et pour moi, c'était un progrès. Ce n'était pas le rêve absolu, ce traité constitutionnel, mais c'était un progrès. C'est pour ça que j'ai voté oui. Le peuple, de toute façon, il voit toujours plus loin que le politique. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'il dit.
Alors, je reviens en France. Les primaires, ça y est, on y est, ça va démarrer. Pourquoi François Hollande et pas Martine Aubry? Qu'est-ce qu'il a en plus ou qu'est-ce qu'elle a en moins? On a l'impression, honnêtement, qu'ils appartiennent y compris au sein du Parti Socialiste, ce Parti Socialiste à la même famille politique. Il n'y a pas de...
Alors,
je me trompe. Si je vous demandais de lister les différences entre Martine Aubry et François Hollande, elles seraient quand même très très fines.
Alors, d'abord, je ne vais pas lister quoi que ce soit. Ils appartiennent effectivement à la même famille politique. Ce n'est pas un scoop, ils sont socialistes tous les deux. Donc ça va, il ne me déplaise pas, ni l'un ni l'autre. Si j'ai choisi François Hollande, eh ben, d'abord, la première chose, c'est que lui, il en a envie. Il l'a dit de suite. Il veut y aller.
Martine Aubry n'a pas envie.
Ségolène Royal en a envie depuis très longtemps aussi.
Je vais revenir là-dessus.
Manuel Valls,
il
Montbourg.
En a envie. Premier critère, c'était très important pour moi. Il en a envie et il est prêt. Et franchement, si vous l'écoutez, je pense qu'il sent, contre Nicolas Sarkozy, que, eh ben, il va y arriver. Il a une volonté de gagner cette élection. Alors, je lui reprochais, lui disant, mais l'autre fois, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, tu n'y es pas allé. Il pensait que c'était Nicolas Sarkozy qui était prêt l'autre fois, que quel que soit notre candidat, on n'y arriverait pas, parce que Sarkozy était incarné le renouveau, il avait repris en main son parti, etc. Aujourd'hui, François s'est préparé depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il a véritablement envie d'y aller. Je crois qu'il est un homme, alors quand il dit un homme normal, moi ça ne me déplaît pas qu'il soit un homme normal. De toute façon, il n'est pas vraiment normal, je dois vous le dire. Il n'est pas normal, c'est une confidence. Il est extrêmement brillant et intelligent.
Vous nous faites peur là.
Non, il est extrêmement brillant, extrêmement intelligent. Et donc, de ce point de vue, il aspire à l'économie. Enfin, il comprend les thématiques très, très, très vite. C'est un homme extrêmement brillant. Mais il est normal parce que ben, il a une moto pour se déplacer dans Paris. Normal parce qu'on peut prendre un pot avec lui et qu'on peut lui parler normalement, etc. Donc, et puis, il a de l'humour. Alors, on lui a dit, il faut que vous ayez un peu moins d'humour. Mais moi, je trouve que ça sera pas mal qu'on ait un président de la République qui enfin ait de l'humour.
L'image que lui ont collé les guignols de l'info, à savoir une espèce de flan, de gros mou, il réagit comment? Il en fait quoi de ça? Parce qu'il va falloir qu'il se batte contre cette image-là.
Ça y est, il réagit comment? Il intervient sur toutes les thématiques, il intervient sur la réforme fiscale, il intervient. Voilà, il s'est tranché puisqu'il dit des choses. Il s'est tranché puisqu'il se présente à la candidature au moment où on lui annonçait que Dominique Strauss-Kahn était imbattable. Donc il sait y aller, le courage il l'a. Et comment il réagit en aparté, bah, ça le fait rigoler. Et puis des fois il dit, j'ai l'air bête quand même. Hein. J'ai l'air bête.
Mais ça le fait rigoler. Qu'il gère, s'il arrive à cette haute fonction, qu'il gère la France comme il a géré le Parti Socialiste, dans une espèce de consensus, de plâtrage, replâtrage continu. Et finalement à l'arrivée avec un bilan qui n'est pas très brillant.
Alors, d'abord, le Parti Socialiste, il l'a géré comme la gère la première secrétaire aujourd'hui. Je vous fais remarquer que le projet du Parti Socialiste a été voté dernièrement, j'y étais, à l'unanimité. Et que donc Martine Aubry, quand on est au poste de premier secrétaire, on cherche le consensus. On ne cherche pas à casser son parti en morceaux. C'est exactement ce qu'elle a fait.
On imprime quand même sa marque. Hein.
C'est ce qu'elle a fait. Elle imprime sa marque, peut-être, mais le projet, nous l'avons tous voté. On a levé le carton pour voter ce projet-là. Deuxièmement, il a quand même été au Parti Socialiste pendant 11 ans. 11 ans de Parti Socialiste. Il n'y en a que 3 qui ont eu des fonctions suprêmes dans le parti, qui sont restés 11 ans ou 10 ans. C'est François Mitterrand, c'est Lionel Jospin et c'est François Hollande. C'est les seuls qui sont arrivés à tenir le parti pendant 10 ans, voire plus. Et je vous rappelle quand même que François Hollande a tenu le parti pendant la période dramatique du 21 avril, où il s'est retrouvé un parti au bord de la crise de nerfs, un parti complètement déprimé et seul. Et il a tenu bout à bout le parti. Et franchement, sous François Hollande, à part une exception terrible dont vous avez parlé tout à l'heure, le vote sur la Constitution, on a gagné sous François Hollande toutes les élections. Donc, arrêtons de dire que François Hollande n'a pas géré le parti correctement. Et je n'aime pas les remarques de ceux qui disent « Oh, mais quand je suis arrivée à Solferino, j'ai constaté qu'il n'y avait même pas de papier toilette dans les WC. »
C'est Martine Aubry qui a dit ça.
C'est petit.
Sur le principe des primaires, l'UMP attaque fort. Vous allez ficher tous les Français. Il y a un problème là de démocratie.
Non mais parce qu'on il se moque des gens. L'UMP,
tout à l'heure, j'avais critiqué les caméras avec un risque.
Les citoyens pourront
de
venir.
Flicage.
Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, effectivement, est-ce que la fédération du Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône va pouvoir opérer si tel président d'association a participé ou pas aux primaires? Donc, s'affiche dans le sillage du Parti Socialiste. Est-ce qu'il peut... Alors, c'est pas un problème tout ça.
Il vous a pas échappé que la Fédération des Bouches-du-Rhône a un fonctionnement qui est un petit peu montré du doigt
à
l'échelle nationale.
Hein.
Alors, les primaires, franchement, l'UMP, ils sont gonflés, excusez-moi de parler comme ça. Excusez-moi. Ils sont en train d'empêcher que les primaires se fassent. Mais vous savez quoi? Ils nous font une pub d'enfer. Si vous voulez être contre l'UMP et Nicolas Sarkozy, n'hésitez pas, venez voter le 9 et le 16 octobre aux primaires des socialistes. Non, franchement, soyons sérieux. Dans une ville comme Marseille, j'ai envie de dire presque 1 million d'habitants parce que j'aime bien toujours en rajouter sur Marseille. Une ville comme Marseille, vous pensez qu'on va pouvoir ficher les gens? Non mais vous plaisantez. La Commission nationale...
On a même créé des fichiers artificiels, alors je pense qu'on peut ficher quand même.
La Commission nationale sur les informatiques et libertés a déjà travaillé sur la question des primaires. Elle a déjà donné son accord. Pourquoi a-t-on créé cette institution pour aujourd'hui la contester? On sait qu'on va détruire les listes électorales après les votes. On n'aura pas de caméras...
Ça dépend de la rapidité, je ne sais plus qui a dit, ça dépend de la rapidité des photocopieuses.
Écoutez, franchement, la rapidité des photocopieuses sur 1 million, on attend au moins 1 million de gens qui vont venir voter en France. Et vous imaginez qu'on va ficher 1 million de personnes pour savoir s'ils travaillent dans telle collectivité locale, s'il est président d'association. Mais dites-moi, aujourd'hui, les gens qui se sont abstenus lors des dernières cantonales, ils ont un problème là? Les citoyens qui ne sont pas venus voter, est-ce qu'ils vivent douloureusement? Est-ce que s'il y a un salarié du Conseil Général qui n'est pas venu voter, il a été sanctionné? Pas du tout. Donc non, franchement, je pense que ces primaires, ça sera un très beau et un très grand rendez-vous de la démocratie politique. Ça se fait dans beaucoup de pays progressistes et que ça les rend jaloux.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille, avec aujourd'hui Marie-Arlette Carlotti et Michel Guéraud.
Dernière question sur les primaires, il y a des critiques à gauche aussi, Michel Vauzel par exemple, qui dit mais attention, c'est la machine à diviser,
machine à perdre.
On perd du temps, il faudrait déjà être en campagne, là pas de regret, non, c'est bien de lancer la campagne comme ça.
Michel Vauzel qui soutient François Hollande également.
Ah bon?
Ouais, il l'a dit.
Ah c'est super, je n'avais pas entendu, mais vous pouvez le répéter parce que je ne savais pas.
Il avait peur d'ailleurs qu'on fasse du mal à François Hollande, pour l'empêche d'être élu.
Il a dit ça?
Oui.
Bon, très bien. Je prends acte, je suis ravie. Donc, en fait, il a raison, ça peut être une machine à perdre. Il faut faire très attention. D'ailleurs, c'est ce qu'attend l'UMP, c'est ce qu'attend Sarkozy. Il faut qu'on soit intelligent. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand vous m'avez dit quelles sont les différences, je ne veux pas jouer les différences. Parce que moi, je joue pour mon candidat. Si demain c'est quelqu'un d'autre, mais ça ne sera pas quelqu'un d'autre, ça sera François Hollande. Mais si c'était quelqu'un d'autre, je soutiendrai la candidate ou le candidat qui sortira des primaires. Vous comprenez? Si on n'est pas capable d'être digne et de se respecter, alors oui, on a perdu. Si on se respecte, si on fait des primaires dans la transparence, alors là, ben c'est déjà le début d'une campagne et on donnera un peu d'espoir aux gens. Toujours pareil, faisons rêver les gens.
Parmi les dernières petites questions avant d'arriver au local, parmi les marronniers avant les élections, notamment les élections présidentielles, il y a souvent celui de la dépénalisation, les drogues douces, pardon, j'ai du mal à le dire. Vous êtes contre, vous êtes pour
Ah non, moi je suis pour. Ah, moi j'ai déjà pris position.
Alors question directe, vous avez déjà fumé Marie-Arlette Calotti?
Ah, écoutez, j'ai tiré deux fois une goulée et bon, ça m'a un peu impressionné. La première fois, ça ne m'a rien fait du tout. La deuxième fois, j'ai eu la tête qui a tourné, c'est terminé. Donc je n'ai pas fumé plus que ça. Je ne fume pas de cigarettes d'ailleurs. Mais je suis pour. Je suis pour parce que je ne veux pas qu'on stigmatise des tas de gens. J'allais dire une jeunesse, mais je suis stupide. Il y a les 50 et 60 ans qui sont beaucoup plus...
L'état dealer, ça vous gêne pas?
L'État dealer, pas oui. du tout. Vous croyez que l'État ne diffuse pas l'alcool à un taux je ne sais pas combien, qui provoque énormément d'accidents? Moi, je veux que ce soit contrôlé, maîtrisé. Ce n'est pas la position du parti, vous avez vu.
Et François Hollande?
François Hollande, je ne sais pas si c'est vraiment encore exprimé là-dessus.
S'il veut parler à la jeunesse?
En tout cas, moi, je lui conseillerais de dire oui, tu fais comme Daniel Vaillant qui lui-même parle à la jeunesse. Enfin, c'est proposé par un ancien ministre de l'Intérieur. Soyons sérieux, ce n'est pas si dangereux que ça. C'est très dangereux. De stigmatiser la jeunesse qui consomme comme des crypto-délinquants. Ça, pour moi, c'est très dangereux.
Mais que la drogue, que l'argent de la drogue rentre dans le PIB de la France, c'est pas quelque chose qui vous est insupportable.
Mais écoutez, je parle pas de la drogue, je parle pas...
Oui, de la drogue douce, oui, c'est une drogue
douce.
C'est le cannabis.
Et vous trouvez qu'il faut empêcher l'alcool, comme aux États-Unis à une époque, pour qu'on ne soit pas complice...
C'est culturel.
Complice de... Non, mais vous trouvez qu'il faut pas être complice des producteurs de whisky, de pinard, quand on fait des fêtes dans les rues de Marseille, c'est très grave d'empêcher le vin. On est complice de quelque chose là aussi. Je veux que ce soit maîtrisé, je veux que ce soit contrôlé. Et je pense que ça permettra un peu plus de tranquillité dans les cités et qu'on ne me raconte pas que ceux qui aujourd'hui dealent du shit vont passer à des drogues plus dures. Les drogues plus dures, il y a déjà des réseaux bien organisés et qui sont bien structurés.
On a compris que Marie-Arlette Carlotti donc avait déjà un petit peu fumé et voulait tuer le petit commerce de ville dans les quartiers. Alors, Michel Guéraud, on attaque le local.
Oui, les Bouches-du-Rhône, le Parti Socialiste, la Fédération, on ne peut pas ne pas en parler. Il y a une enquête interne qui arrive à son terme. Vous espérez beaucoup des conclusions de cette enquête. D'aucuns disent, bon, ça va être un tour pour rien. Justement, les primaires démarrent et Martine Aubry ne va pas pouvoir se permettre de se fâcher avec la puissante Fédération des Bouches-du-Rhône. Rien ne va bouger. Est-ce qu'il faut que les choses bougent et pourquoi?
Alors, pour l'inverse de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que comme les primaires démarrent, moi, je veux justement que les choses soient claires et transparentes. Je ne veux pas que vous parliez tout à l'heure que les citoyens hésitent à venir nous rejoindre pour nous aider à choisir le meilleur candidat le 9 et le 16 octobre prochain. Je ne veux pas. Donc, je veux véritablement qu'ils sachent que dans les Bouches-du-Rhône, comme ailleurs, dans le reste de la France, il y a de la transparence.
Alors, je rappelle quand même pour les auditeurs que le rapport doit être rendu le 28 juin. C'est le jour même de l'ouverture des candidatures à la primaire socialiste.
Hein. Donc, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, pour tout vous dire.
C'est une manière un petit peu d'enterrer les choses, c'est ça? Vous craignez que l'opération même propre n'est pas...
Mais je crains qu'on mélange tout, donc moi ça ne m'intéressait pas, j'aurais voulu que les choses soient faites, bon elles vont se faire le 28, mais franchement justement, moi c'était pour préparer les primaires dans de manière transparente, donc je ne trouve pas opportun que ça se fasse le même jour pour qu'on mélange. Et si c'est pour noyer le poisson, alors là franchement ce serait une catastrophe, parce qu'on a quand même étalé nos divergences sur la place publique dans les Bouches-du-Rhône. Donc si on l'a fait, il ne faut pas que ce soit pour rien.
Alors vous avez dit, je ne voudrais pas qu'on ait déballé toutes nos histoires pour faire un flop pareil. Alors, c'était les inquiétudes que vous avez livrées au Figaro, c'était le 10 de ce mois-ci. Quelles histoires vous avez déballées, Marie-Arlette Carlotti?
On a tous dit que les choses n'allaient pas bien.
Lesquelles? Précisons pour les auditeurs, parce que pour l'instant, on est vraiment dans le vague.
Ah ben, Alain Richard a entendu de nombreux militants et responsables.
Qu'est-ce que vous lui avez dit, Alain Richard?
Moi, je lui ai parlé de moi. Je lui ai parlé du fait qu'il faut être les deux doigts sur la couture du pantalon et que si on ne l'est pas, si on a envie de montrer son indépendance d'esprit, on était sanctionné. Alors que je suis tout à fait dans la ligne de mon parti, je ne prends pas position.
Alors Marie-Arlette Carlotti, élections truquées, il y a eu des élections truquées?
Élections truquées, vous parlez de quoi? Les élections internes?
Voilà, oui.
Les dernières élections au Congrès de Reims, dans les Bouches-du-Rhône, se sont passées de manière difficile. Il y a eu un rapport qui a été conduit par un sénateur qui s'appelle Yannick Baudin, que nous avons remis d'ailleurs à Alain Richard, qu'il avait pour montrer que dans certaines sections, la pression était très forte. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle truqué, mais la consigne était très très forte et a été très entendue.
Adhésion bidon.
Oh, adhésion bidon, peut-être. Non, je crois qu'il y a derrière toutes les cartes du parti, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui la porte. Non, mais c'est vrai.
Enfin, c'est des cartes qui sont payées par chèque et qu'on rembourse en liquide.
C'est possible. Peut-être qu'on le fait aussi pour rendre service à l'élu, pour pas le contrarier. Tout ça, ça peut pas fonctionner, vous comprenez? Ça fonctionne un peu, mais ça peut pas être la règle.
Il y a des socialistes au niveau des Bouches-du-Rhône qui sont organisés dans une association qui s'appelle Renouveau Socialiste. Ils ont signé une tribune dans Le Monde hier. Alors, ils demandent mettre fin aux pratiques clientélistes internes, mettre fin à l'asservissement du vote des adhérents. C'est ça, ça vous constatez, ces deux points? Des pratiques clientélistes internes, l'asservissement du vote de certains des adhérents?
Par exemple, quand les gens... Les responsables fédéraux sont majoritairement ou salariés du Conseil général ou conseillers généraux. C'est mon cas, donc je me cite dans ce cas-là. Ou dépendent de façon directe ou indirecte du Conseil général. Ça peut exister dans toutes les fédérations, mais quand ça existe à 60 ou 60% et plus, c'est pas normal. Oui, c'est du clientélisme interne. Voilà, il vaut mieux. On peut pas empêcher les adhérents et les salariés du Conseil général d'être socialistes. Au contraire, je les incite tous à être socialistes, mais je veux que ce soit volontaire. Voilà, donc. Donc oui, il existe des dysfonctionnements. Puisque la commission d'enquête a eu lieu, c'est bien qu'il existe des dysfonctionnements. On veut y mettre fin. On doit y mettre fin. On parlait de discrédit de la classe politique tout à l'heure. Moi, je l'ai senti, ce discrédit. Je l'ai senti parce que j'étais candidate aux élections cantonales, que j'ai fait mon job, que je suis plutôt proche des gens, que je parle plutôt normalement, que je leur ressemble. Malgré tout, ils m'ont dit « On vient voter, vous savez, mais. Donc je l'ai senti, ce discrédit. Et je n'en veux plus. Voilà. Moi, je veux faire de la politique, défendre des idées et ne plus parler des magouilles.
Et Jean-Noël Guérini, qu'est-ce qu'il doit faire là-dedans? Je le nomme parce qu'il a...
Jean-Noël Guérini, président du Conseil général.
Président du Conseil général, mais aussi président un temps de la Fédération des Bouches-du-Rhône, homme fort du Parti socialiste depuis quelques années. Vous avez longtemps travaillé en bonne intelligence avec lui. Vous avez été, je le rappelais tout à l'heure, le porte-parole de sa campagne municipale. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ensuite, vous lui demandez de prendre du recul, de changer ses pratiques et vous lui reprochez un certain nombre de dysfonctionnements que qu'on vient de pointer dans la fédération. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai toujours travaillé en bonne intelligence avec lui, hein, et avec tout le monde d'ailleurs, même si vous l'avez dit d'ailleurs dans mon petit édito sympa, là, que c'était en dents de scie. Moi, je prends des positions et si elles ne plaisent pas, quelquefois, je suis sanctionnée parce qu'elles ne plaisent
qu'est-ce
pas. Donc, c'est arrivé tout le temps.
Au lendemain des municipales, qui fait que vous n'avez plus les faveurs de Jean-Noël Guérini et de la Fédé? Qu'est-ce qui se passe?
De la Fédé, j'ai les faveurs des militants, j'ai les faveurs des électeurs.
Vous n'êtes pas investi aux européennes.
Jean-David Ciot, à ce
votre section est
finalement. En deux. Ceux qui critiquent, ce sont les aigris à qui on a un jour ou l'autre refusé quelque chose.
Bah, Jean-David aussi, on a dû lui refuser, le pauvre garçon. Pourtant, il est très méritant. À tout le monde, on a refusé quelque chose. Donc moi, je ne me sens pas tellement aigri, vous voyez. C'est pas du tout. Non, je ne pense pas à ceux qui critiquent.
Et donc, pour répondre à la question de Michel Guéraud, pourquoi ce réveil soudain? Pourquoi vous découvrez la face cachée de Jean-Noël Guérini, vous qui l'avez fréquenté quand même de manière relativement assidue?
Là, vous êtes un peu dégueu de dire, de dire réveil soudain. Ça, quand même. Vous avez signalé tout à l'heure que...
Enfin, jamais avec autant de pugnacité quand même, Maria
Letcarlotti. Les positions politiques, bon, c'est vous qui le dites, les positions politiques que j'ai eues sont des positions que je ressentais. Et je n'ai pas hésité une minute à prendre des positions quand elles étaient profondément dans mes tripes. Voilà, parce que moi je suis une militante, je ne me suis pas engagée pour avoir une voiture officielle et une cocarde. Ça me fait plaisir de temps en temps, parce que ça me pose. Mais c'est pas ça mon engagement. Je me suis engagée parce que je suis une militante. Donc quand je suis convaincue de quelque chose, je me positionne. Et vous le rappeliez tout à l'heure. Et c'est pas soudain. Voilà. Le fonctionnement et le dysfonctionnement de mon parti, ça n'est pas soudain. Le rapport qui a eu lieu, le rapport Baudin au congrès de Reims, c'est à l'initiative de Bertrand Delanoë, dont je soutenais la candidature. C'était pas soudain. C'était quand même il y a quelques mois, il y a même 2 ans maintenant. Hein. Donc c'est pas soudain. À un moment donné, il y a un climat qui ne me regarde pas, qui est le climat des affaires. Et je fais une campagne, je parle des cantonales, je fais une campagne dans ce climat-là, alors que je ne comprends rien à tout ça, que je suis étrangère à tout ça, que mon engagement politique, le mien...
Vous ne saviez pas ce qui se passait réellement au Conseil général?
Ancienne
militante du Parti socialiste, vous connaissiez Alexandre Guérini, vous l'avez jamais croisé?
Bien sûr, j'ai croisé Alexandre Guérini,
vous
bien
ne
sûr, très sympathique,
Laura
très souriant.
Qui...
Ah non, mais attendez, vous rigolez, tous les jours dans la presse, j'apprends des choses, tous les jours. Ah, j'apprends des choses, j'apprends ce que les journalistes disent. Donc je ne peux pas savoir ce genre de choses. Et c'est très désagréable pour moi, comme pour tous les collègues conseillers généraux qui ont fait campagne, tous les jours d'ouvrir les journaux et de se faire interpeller par la population. Nous, en tant que socialistes, on ne doit pas répondre à ces questions-là. Ça ne nous regarde pas. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour faire de la politique. On n'est pas fait pour répondre aux affaires judiciaires.
Dans ce cas, Marie-Arlette Carlotti, les élections sont passées. Vous êtes élue conseillère générale. Pourquoi avoir voté pour Jean-Noël Guérini, pour la reconduction de Jean-Noël Guérini, malgré les affaires, malgré tout ce que vous avez appris apparemment à travers la presse? Pourquoi avoir voté ce jour-là, alors que c'était un bulletin secret, pour Jean-Noël Guérini?
Alors, pourquoi d'abord avoir eu le courage, merci de me le dire, de lui dire que j'avais besoin d'explications et que je ne voulais pas lui donner un chèque en blanc? Voilà, je suis la seule à l'avoir fait. Je l'ai fait parce que justement je sortais d'élections dans lesquelles j'étais troublée. Jean-Noël Guérini, pour l'instant, n'est pas mis en cause sur le plan des affaires personnellement. Hein, donc. Mais sa personne a jeté un trouble. Il n'est pas responsable de quoi que ce soit, mais il est... Son nom est cité dans la presse. Donc c'est ça que je voulais. Je veux discuter avec lui en lui disant il faut qu'on ait un débat au sein du groupe socialiste. Donc je lui ai demandé ce débat au sein du groupe socialiste en lui disant, faute de quoi, moi je ne peux pas avoir un chèque en blanc. On a ce débat au sein du groupe socialiste. L'ensemble de mes collègues disent qu'il n'y a pas de problème pour voter Jean-Noël Guérini. Martine Aubry renouvelle le soutien à Martine Aubry, à Jean-Noël Guérini. Voilà, donc voilà, j'attends la suite. J'espère qu'il n'y aura pas de suite. J'espère que tout va bien se passer.
Jean-Noël Guérini vient de mettre en place il a appelé un gouvernement Guérini, 12 conseillers généraux destinés à se réunir tous les 15 jours pour une direction plus collégiale du CG. Bonne initiative. Vous êtes sceptique.
D'abord, vous n'en faites pas partie.
Ah ben non. Non, c'est mieux d'entendre que ce qu'on a envie d'entendre. Donc il vaut mieux choisir les participants. Comme ça, au moins, on n'a pas de surprise. Que Jean-Noël Guérini décide à plusieurs, ça sera un scoop. On le verra dans quelques mois, si ça continue. Pour vous, que ça dure.
Vous pensez toujours qu'il aurait mieux valu qu'il prenne un peu de recul et qu'il ne soit pas président du Conseil Général, même si vous avez voté pour lui, finalement, c'est ce que vous nous expliquez.
Oui,
avez été solidaire des disciplines collectives, mais vous pensez qu'il aurait mieux valu qu'il laisse sa place.
En tout cas, j'aurais voulu qu'il en parle. J'aurais voulu qu'il,
ne
nous dédaigne pas. Non, je ne suis pas prudente, je ne suis jamais assez prudente, vous savez. Non, mais qu'il ne nous dédaigne pas, c'est-à-dire qu'il parle avec nous des difficultés que nous avions rencontrées un peu à cause de lui.
On ne connaît pas encore les conclusions de la commission d'enquête interne. Enfin, il y a des choses qui se dessinent, en particulier l'idée d'une direction collégiale à la Fédération des Bouches-du-Rhône. C'est une bonne idée, mais il y a la question de qui va présider cette direction collégiale. Est-ce qu'il faut symboliquement marquer un changement et donc un changement aussi des gens qui dirigent cette fédération?
S'il y a une direction collégiale, ça sera un changement. Parce que vous comprenez bien que la direction collégiale, ça n'existe pas depuis belle lurette.
Même si Jean-David Ciot continue à présider.
Moi, ça ne me dérange pas que Jean-David Ciot continue à présider.
Il vient de démissionner du Conseil Général. Hein.
Oui, bon, mais c'est pas grave. Il reste quand même très étroitement lié à Jean-Noël Guérini. Mais il ne faut pas demander la tête des guérinistes. C'est pas comme ça qu'on va mettre la paix dans la Fédération des Bouches-du-Rhône. Une direction collégiale avec 5 personnes, dont Jean-David Ciot, qui sont plutôt proches de Guérini, et 4 qui ne le seraient pas. C'est ce que proposait, d'après ce que j'ai cru comprendre, Alain Richard, avec la coordination de Jean-David, de Ciot. Moi, ça me va, à condition de savoir à quoi elle va servir, cette direction collégiale. Si elle est là pour se regarder tranquillement, pour boire le café, et c'est tout, ça ne sert à rien. Si elle est là pour vérifier les sections, pour vérifier les nouvelles adhésions, pour préparer les primaires dans la transparence.
Justement, Marie-Alain Carlotti,
oui.
Vous n'êtes pas la seule à critiquer Jean-Noël Guérini, c'est même un sport national là, en ce moment chez les socialistes, en tout cas certains socialistes. Patrick Mennucci, par exemple, lui réclame vraiment un changement à la tête de la commission des adhésions. C'est une commission relativement importante. Elle est dirigée par quelqu'un qui a un passé plutôt sulfureux, M. Balalas, qui est un ancien du Front National. Là, vous n'avez pas appris par la presse le passé de M. Balalas. Ça fait très longtemps que vous savez qu'il est à la tête de cette commission. Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé bien avant?
Oui, vous avez raison. Il a un passé sulfureux et c'est pas normal qu'il joue ce rôle-là. Je ne l'ai pas dénoncé comme tous les autres parce que Théo avait pu changer de position, évoluer, etc. Voilà, oui, on est coupable de beaucoup de choses les uns les autres. On a souvent fermé notre gueule. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait... Aujourd'hui, c'est fini. Terminé. Et d'ailleurs, je vous remercie. Je remercie les médias de regarder dans nos maisons, dans notre maison des socialistes, parce que ça nous permet justement de faire le ménage. Faute de quoi, on s'arrange entre amis. Et ça, c'est pas possible. Les électeurs, maintenant, nous connaissent mieux que nous-mêmes. Oui, cette commission des adhésions doit être revue et corrigée, et le président doit donner sa démission.
Il y a le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui cache à peine son envie de se présenter à sa propre succession à un boulevard devant lui. Là. Est-ce que le Parti Socialiste va avoir le temps, dans la séquence électorale qui s'ouvre, localement, de se remettre sur pied, de sortir un candidat qui puisse faire basculer cette ville à gauche?
En politique, il faut toujours voir loin et avoir une vision stratégique. Mais en même temps, il faut prendre les élections au fur et à mesure qu'elles arrivent et être prudent. On a la présidentielle et la législative qui va suivre derrière. Je pense que les deux élections vont quand même être très pesantes sur l'élection de 2014. On a quand même le temps de se refaire, on a le temps, donc ça nous donne l'occasion de nous refaire ces deux élections fondamentales. Et on a le temps de préparer quelque chose et une nouvelle équipe, et je crois qu'on va le faire.
Jean-Noël Guérini est toujours le chef supposé naturel des socialistes des Bouches-du-Rhône ?
Oh non, je crois pas. Il est parmi les personnalités, mais il y en a plein qui peuvent vouloir être candidat à la mairie de Marseille, si c'est ce que vous voulez dire.
Oui.
Voilà. Il y en a plein qui veulent. Il y en a même qui ont commencé à le dire dans les journaux.
Est-ce que vous, concrètement, Marie-Arlette Carlotti, est-ce que Jean-Noël Guérini serait votre candidat pour 2014 ?
Aujourd'hui ?
Oui.
Non, je crois pas. Non, non.
Une question sur un dossier local qu'on suit de près dans le Ravi, la question de l'eau. Il y a le Forum mondial de l'eau, vous occupez de près de ce dossier-là. Il y a une décision de MPM qui va être actée début juillet concernant la réattribution du marché de l'eau, probablement à la SEM, c'est-à-dire à la filiale de Veolia. La fédération UPS et au niveau du programme national étaient partisans d'un retour en régie, d'une gestion publique de l'eau. Le Parti Socialiste avec l'UMP va donc faire probablement un autre choix. Est-ce que là, on ne brouille pas les cartes et est-ce qu'on ne donne pas l'idée aux électeurs que c'est un peu bonnet blanc sur ces questions?
La tendance au niveau national, c'est le retour en régie. Hein.
Est-ce que vous partagez déjà le principe de poursuivre avec la SEM? Et cette co-gestion, qu'est-ce que ça donne en termes d'image et...
Alors moi, ce qui m'intéresse... Oui, effectivement, le Parti Socialiste s'est prononcé pour un service public de l'eau, hein, comme bien commun, voilà, c'est quelque chose de très important. Ce qui m'intéresse, c'est la traduction que ça aura sur les gens qui utilisent l'eau. Et si c'est pour maîtriser le prix de l'eau, alors ça m'intéresse. Mais en général, tout ce qui est service public, je vais, parce que je pense qu'on contrôle les choses. La position de MPM aujourd'hui, c'est de dire « je n'ai pas les moyens ». De reprendre à mon compte financièrement, vous connaissez la situation d'abord du budget de la ville et même du budget de MPM, hein. Je n'ai pas les moyens financiers de reprendre la totalité de la gestion de l'eau en régie directe, enfin en utilisation
c'est
directe.
C'est ce qui a déjà été dit pour l'incinérateur et l'incinérateur continue et finalement les...
En tout cas c'est ce qui est dit
avant,
parce que là il y a des salariés avec des acquis sociaux, avec des grosses compétences, avec, voilà, donc c'est lourd. Moi je pense qu'il faut regarder surtout comment ça peut se traduire quand on va ouvrir le robinet pour le consommateur.
Et pourquoi est-ce qu'il est possible à Paris avec de la Noé, avec des baisses effectivement de factures sur la facture des consommateurs importantes, ils ont remunicipalisé, ça marche, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait baisser la facture. Pourquoi est-ce qu'il est possible à Paris, ne l'est pas à Marseille? Il y a un tropisme local?
Non, parce que je pense que la situation de Paris, en tout cas la situation de Marseille, n'est pas la même situation que la plupart des grandes villes de France.
Est-ce qu'on évoque... Est-ce que vous n'êtes pas en train d'évoquer, en sous-entendu, le poids des syndicats que vous avez défendu ardemment tout à l'heure?
Je défends toujours les organisations syndicales, mais quand elles sont en situation de monopole, ça me fatigue aussi. Hein.
Donc concrètement, voilà. Pour les auditeurs, donc, vous dites qu'EFO est vraiment un frein, EFO ou d'autres sont peut-être freins dans ce dossier-là?
Sur l'eau? Moins que dans d'autres dossiers, certainement. En tout cas, les syndicats ont un rôle à jouer et je souhaite qu'ils ne soient pas en situation de monopole, notamment dans les collectivités territoriales et qu'on respecte l'ensemble des organisations syndicales, partout.
Eugène Cazelli, donc, co-gère avec l'UMP.
J'étais en train de vous dire que
oui.
Paris, Toulouse, Nantes, enfin je ne sais plus, Grenoble, je ne sais plus quelles sont les villes qui sont passées en régie. La situation financière et la situation n'est pas la même que la ville de Marseille. Marseille aujourd'hui est une ville qui est malade, qui souffre. Vous parliez tout à l'heure du fait que Jean-Claude Gaudin se représente. Moi je ne veux pas me mêler de leur histoire fratricide, hein, parce qu'elles sont peut-être plus sournoises, mais peut-être plus profondes que les nôtres. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui il n'y a plus de pilotes dans l'avion. Ça va très mal à Marseille. Je suis consternée parce que j'adore cette ville. Et que la moindre position qu'on peut prendre, on est tenu par un déficit énorme du budget municipal. Donc, je pense qu'on est énormément lié à la situation que Gaudin a fait. Il en est le responsable. J'ai pas dit qu'il aimait pas Marseille. Il aime cette ville, mais il ne s'en occupe plus. Voilà dans quelle situation nous allons travailler pour 2014. Il va falloir une volonté d'enfer pour la reprendre en
main.
Cela
dit, lui aussi s'abrite souvent sur l'argument financier en disant Marseille, ville pauvre, etc.
40% de la population est non imposable.
Pour expliquer les insuffisances de sa politique. Donc est-ce que Eugène Casilli ne reproduit pas le même discours et est-ce que ça présume pas des choses pas très positives pour une alternance possible?
Si, je pense qu'on peut faire une alternance. On doit pouvoir avoir envie de travailler, de faire travailler l'ensemble des institutions. On a quand même 3 collectivités territoriales dites de gauche, dont une est en gouvernance partagée, donc elle n'est pas de gauche. Mais il y en a 2 autres, la région et le département des Bouches-du-Rhône. On a beaucoup de mairies dans ce département. On peut vouloir travailler pour qu'il se passe quelque chose,
avec
une émulation.
Avec une métropole, par exemple, on en parle beaucoup en ce moment.
Absolument, on en parle de façon trop précipitée. Moi, je suis pour que Marseille soit à la tête de quelque chose, d'une métropole, parce que cette ville doit pas vivre intramuros, elle doit porter son développement et l'accompagner avec les communes qui soient avoisinantes. Mais je ne suis pas pour qu'on passe en force.
Alors je rappelle pour les auditeurs que ce sera à l'ordre du jour du conseil municipal de ce lundi 27.
Hein. Absolument, donc je ne suis pas pour qu'on passe en force. Le calendrier du préfet, celui de Jean-Claude Gaudin, n'est pas celui ni de la gauche, ni de la population marseillaise, ni des maires des communes avoisinantes. On doit pouvoir avoir un vrai dialogue, respecter les maires qui ont été élus au suffrage universel. Il n'est pas question de leur enlever une part de leurs prérogatives. Mais il faut aussi associer la population marseillaise pour voir ce qu'on veut faire du Marseille de demain. On ne peut pas rester comme ça. Tout à l'heure, je vous le disais en aparté, on a raté à l'époque de Gaston Defferre. Il a réussi plein de choses, Gaston Defferre. Il a raté ce qui s'est passé à Lyon ou dans d'autres grandes villes où on a fait une vraie communauté urbaine à l'époque. Il n'a pas voulu la faire. C'est en partie peut-être à cause de ça qu'on a le retard de la ville. C'est pas que pour ça, mais en partie. Je veux pas qu'on rate le prochain rendez-vous de la métropole, mais le calendrier de Gaudin n'est pas celui des Marseillais et donc certainement pas celui des socialistes.
Marie-Arlette Carlotti, une question peut-être un petit peu plus politicienne. Celui qui gère aujourd'hui la communauté urbaine, c'est Eugène Casilli. Il ne la gère pas par dépit vis-à-vis de Jean-Noël Guérini. On a vu que tous les deux, leur lien s'était largement distendu ces derniers temps.
Ah ben, je crois qu'ils sont suffisamment intelligents et l'un et l'autre pour gérer les dossiers ensemble, même s'ils
ne s'embrassent pas. Vous n'avez pas cette
impression là ? J'ai l'impression qu'ils ne s'embrassent pas sur la bouche, ni même sur la joue. Mais je pense que chaque fois qu'il y a un dossier important dans l'intérêt collectif, ils se voient, leurs services se rencontrent et les choses avancent. Donc non, je n'ai pas l'impression que parce qu'ils seraient fâchés ou moins amis qu'avant, ce serait à la défaveur des citoyens. Certainement pas.
Alors on a vu que les députés, il y en avait aussi à droite, certains s'activent. Un mot peut-être sur le rapport sorti hier du député UMP de Marseille, Dominique Tian, sur l'ampleur des fraudes sociales en France. Alors il parle de chiffres de 20 milliards, même si hier Le Monde a sorti un papier pour amenuiser un petit peu ses déclarations et ses chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? La droite reste sur son sillon, dans son sillon, dans ses critères?
Oui, la droite, elle stigmatise toujours les plus pauvres. Bien sûr qu'il doit y avoir de la triche, mais qu'est-ce que c'est la fuite des capitaux, les gens qui vont investir à l'étranger, tous ceux à qui on a fait, heureusement qu'on vient d'enlever le bouclier fiscal, mais qu'on a fait des cadeaux pendant des années, ceux-là, ça ne les dérange pas? Ceux encore qui vont être épargnés de l'impôt sur les grandes fortunes parce qu'on se débrouille quand même pour protéger quelques-uns. Le fait que les couches, les populations les plus riches de notre pays paient moins d'impôts que vous, que moi, et que les gens qui sont plus pauvres que nous, vous trouvez ça pas pire? Vous ne trouvez pas scandaleux? Alors oui, bien sûr qu'il ne faut pas tricher, qu'il faut respecter les choses, mais arrêtons de stigmatiser toujours les mêmes. Il me fait bien rigoler, M. Tian, quand il écrit des rapports comme ça.
Michel Guéraud.
L'extrême droite, on en a peu parlé. Vous avez été confronté au deuxième tour face à une candidate du FN. Il faut faire avec.
Non, moi, je ne me résigne pas à faire avec. Je respecte les citoyens qui votent pour le FN. Hein. Il y a des tas de raisons. On ne va pas le développer. Peut-être aussi, en partie, le discrédit de la classe politique. Ils croient que, de ce côté-là, ils n'ont jamais géré. Donc, on va aller voir. Ou alors, c'est des votes protestataires. Moi, je ne me résigne pas à faire avec.
Marine Le Pen au deuxième tour, possible?
Pour l'instant, on voit bien qu'elle n'arrive pas à décoller. Elle a un score très important dans les sondages. Très important. Trop important.
Les primaires seront décisifs à ce sujet. S'il y a trop de déchirements entre les socialistes, c'est un boulevard pour Marine Le Pen?
C'est un boulevard pour Marine Le Pen lors du premier tour de l'élection présidentielle également. Il faut qu'on fasse attention. Je crois que le 21 avril est dans tous les esprits. Dans les esprits de la gauche, dans l'esprit de la gauche, mais aussi de la droite. Hein. Voilà, donc oui, bien sûr que c'est un problème. Donc moi, je ne me résigne pas à dire « elle va rester forte ». Je veux respecter les gens qui votent Front National et aller leur parler, leur dire pourquoi nous, on peut apporter des vraies réponses et pas simplement des slogans, même si ces slogans sont portés de manière de plus en plus fine et de plus en plus intelligente. C'est pour ça que c'est très dangereux. Moi, j'ai été confrontée effectivement dans un quartier qui n'est pas un quartier populaire, où normalement le Front National était largement enraciné. J'étais confrontée dans un quartier de couche moyenne avec, je le disais, des gens un peu plus riches, des couches de pauvreté, mais c'est plutôt un quartier globalement de couche moyenne. Ça veut dire que le Front National s'installe aussi dans les esprits des couches moyennes, vous voyez. Donc on a véritablement à aller leur parler aux gens. Vous vous trompez.
Marie-Arlette Carlotti, on arrive au terme de cette émission. Vous êtes conseillère générale, conseillère régionale. Vous avez été plusieurs fois candidate à législation, aux législatives, pardon. Est-ce que vous le serez en 2012 ?
Eh bien, écoutez, moi, franchement, si François Hollande est président de la République, j'ai bien envie d'accompagner la victoire et de continuer derrière, et
donc,
de gagner.
Donc, candidate aux législatives ?
Pourquoi pas ?
Vous le dites aujourd'hui ?
Bah, j'ai envie, oui, mais c'est mon parti qui décide. Et ouais. Après, c'est les citoyens.
Merci. Michel Guéroux, juste un mot, on termine cette émission, c'est l'émission de la saison. Un mot peut-être sur le RAVI, en quelques phrases, sur la situation du RAVI. On peut toujours s'abonner, je l'ai dit tout à l'heure, sur le site. Quelle est la situation ?
Il faut. La situation, c'est qu'on prépare un beau numéro juillet-août et qu'on a besoin d'abonnés, de lecteurs et de lecteurs fidèles, de lecteurs réguliers. On ne fait pas un journal sans des gens qui en sont acteurs et cofinanceurs. Donc, plus que jamais, il faut s'abonner à ce journal pour pas louper le numéro d'été. On ira à Monaco chez le prince.
Monaco chez le prince pour un mariage et bien entendu d'autres choses. Allez, plein de bonnes choses. On se retrouve à la rentrée prochaine. Bye, bel été.